Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour à tous, lundi matin, proposition indécente. Et si nous allions à la plage, vous êtes partant, décor, tenue de surfeur et longue étendue de sable en Californie. Voici les Beach Boys. Ah, ça fait du bien, l'océan, le sel, le soleil, ce sentiment de liberté retrouvée. Il faut juste éviter de traduire le refrain « Get around ». Avez-vous vu la une du Parisien ce matin? Très jolie photo, oui mais non. La place de la Concorde à Paris désertée de toute présence humaine, l'obélisque s'ennuie, c'est poétique, oui mais non. Lisez donc le titre, la menace d'un troisième confinement. Traduction en langage politique, toutes les hypothèses sont sur la table. Pour une Morissette vaccinée hier, combien de nouveaux cas post-Noël? Bon, prenons jour après jour et aujourd'hui, contre une nouvelle vague, la plage. Au menu de Culture Média de fête, obsession Covid. Un compte Twitter documente les infos liées au virus, courbes, graphiques, statistiques, études et errances. C'est le compte du journaliste indépendant Vincent Glade. Nous l'aurons en ligne tout à l'heure. D'ici une dizaine de minutes, invité de Culture Média, le journaliste de Télérama spécialisé dans la surveillance numérique, Olivier Tesquet. Il va nous raconter comment une entreprise israélienne infiltre les téléphones portables de journalistes et pourquoi Antoine Griezmann a rompu son contrat avec le géant chinois des télécoms Huawei. Après 10h, Eva Rock et sa série des séries. Indice aujourd'hui, un téléphone portable détruit. Trop facile. L'invité culture remercie son ex, la chanteuse Camille Lelouch. En direct tout à l'heure, premier album à venir et un portrait signé Damien Caprespine. Culture Média jusqu'à 11h. Oh, joie! Et bonjour Thomas Hill.
Bonjour Pascal Clark.
Ça va bien ce matin?
Ça va et vous?
Ça va pas mal. Quel est le sommaire de votre journal des médias?
Alors aujourd'hui j'ai des révélations sur de nouveaux programmes de France Télé. J'ai les meilleures audiences de l'année et j'ai même un message de Jean-Pierre Pernaut. Ça vous ira ma petite dame?
Oh, mais comment vous me parlez, mon petit monsieur? Allez, on commence par les audiences avec un petit coup d'œil d'abord sur l'ensemble du week-end.
Oui, pour noter un bon lancement hein, pour la grande incruste de Camille Combal samedi soir sur TF1. 22% sur l'ensemble du public, 5 millions de téléspectateurs, ça le classe. Juste derrière le téléfilm Meurtre à Cognac sur France 3. Mais si on regarde les cibles qui intéressent vraiment TF1, c'est un gros succès avec 39% des femmes responsables des achats, 48% même des 15-34 ans. Côté déception, ce week-end, on notera le score assez confidentiel de Boyarland qui n'avait pas trouvé son public en prime et c'est encore plus dur en plein après-midi avec seulement 4,8% du public devant France 2 hier soir entre 16 et 18h. Et puis on vous en parlait vendredi, le lancement de À vous de trouver le coupable sur France 3 produit par Christophe de Chavannes. Seulement 5,7% du public ont mené cette enquête.
Je suis déçu. Hier soir, Thomas, qui a remporté la mise?
C'est Steven Spielberg qui l'a remporté avec Ready Player One sur TF1 qui nous plonge en 2045 dans un monde au bord du chaos. Il n'avait pas besoin d'aller si loin. 2020, c'était suffisant. 21,3% du public, 4,6 millions de téléspectateurs. La deuxième place pour les enquêtes de Vera sur France 3, 3,6 millions de téléspectateurs. Et puis Zone Interdite prend la troisième place avec 11,2% du public sur une enquête sur les changements de vie.
Culture Média. Info Europe 1, Thomas Hill, pour commencer, vous faites fort. Hein.
C'est assez impressionnant, hein. Une information exclusive, j'ai toujours rêvé de pouvoir dire ça. France Télévisions travaille actuellement à un renouvellement d'une partie de ses programmes d'après-midi du week-end. Pour cela, ils ont déjà lancé la production de 3 nouveaux magazines qui devraient trouver leur place sur France 2 ou France 3. Alors le premier est consacré à la cuisine, domaine sur lequel France Télévisions est absent depuis quelques années maintenant. Le deuxième s'intéressera lui aux faits divers, là aussi un genre qui était délaissé par France Télé depuis l'arrêt de fête entre l'accusé. Et enfin, un troisième magazine abordera les thématiques de la santé et du bien-être. Donc après les annonces de l'arrêt de plusieurs émissions ces dernières semaines, comme Je t'aime, etc., Daphné Burki ou encore La Maison France 5, ça confirme l'ambition de France Télé de tenter de nouvelles choses rapidement.
Le classement annuel des personnalités préférées des Français a été dévoilé hier dans le journal du dimanche.
Oui, alors pas de grand changement, hein, pas de changement tout en haut en tout cas, avec toujours Sophie Marceau, femme préférée des Français, Jean-Jacques Goldman au sommet du classement masculin pour la 10e fois. Mais derrière, ça bouge pas mal, avec notamment la progression fulgurante de Jean-Pierre Pernaut, qui monte de 10 places et confirme sa belle sortie du journal de 13h. Alors j'ai voulu savoir ce que ça lui faisait de recevoir d'un coup toute cette reconnaissance.
Je ne vais pas vous cacher mon immense satisfaction, ma surprise aussi et ma fierté d'être troisième de ce sondage. Un journaliste sur le podium, je crois que c'est jamais arrivé dans le sondage du JDD, même si j'y suis depuis longtemps, mais à la 10e, 15e place. La troisième, vraiment, c'est beaucoup de satisfaction après mes 33 ans de journal télévisé, après toutes les émotions qu'on a vécues ensemble la semaine dernière pour mon dernier journal. Donc voilà, c'est la proximité que j'ai mis dans mes journaux depuis si longtemps. Je suis vraiment très très fier d'être si haut et en même temps gêné parce qu'il y a tellement de gens qui mériteraient d'être en tête de ce sondage, notamment tous les soignants qui se battent en ce moment contre le Covid.
Voilà, très heureux Jean-Pierre Pernaut de cette troisième place. On notera également l'entrée dans le classement des deux chefs d'M6, Philippe Etchebest 7e, Cyril Lignac 14e. M6 à la fête, hein, puisque du côté des femmes, Karine Lemarchand est la première personnalité télé à la 7e place. Mais je vous rassure, Europe 1 n'est pas en reste, avec la présence de Stéphane Bern, bien sûr, mais aussi l'entrée d'Anne Roumanoff directement à la 11e place.
L'Institut Médiamétrie a dévoilé la liste des meilleures audiences de l'année 2020.
Oui, vous vous souvenez, Pascal, du bon vieux temps où dans cette liste, on trouvait pratiquement que du foot, des séries et quelques divertissements. Eh bien, sur les 15 meilleures audiences de 2020, 13 concernent les annonces gouvernementales et l'actualité autour du coronavirus. Le record de l'année étant l'annonce du déconfinement par Emmanuel Macron le 13 avril dernier. Ce soir-là, 36 millions de Français sont devant son allocution diffusée sur 11 chaînes en simultané. Deux rescapés de la crise sanitaire dans cette liste des meilleures audiences de l'année, le spectacle des Enfoirés et la finale de Ligue des Champions PSG-Bayern. De manière plus globale, l'audience a bien progressé en 2020. C'est là aussi l'une des conséquences des confinements qui ont poussé beaucoup de Français à passer leur soirée dans le canapé.
Devant la télé. Dans ce journal des médias également, la relance du célèbre magazine Pif Gadget semble cette fois fonctionner, Thomas.
Oui, depuis 2004, c'est la quatrième tentative pour essayer de faire revivre ce magazine culte lancé par le Parti communiste en 1969. Et ironie de l'histoire, c'est un ancien proche de Nicolas Sarkozy, Frédéric Lefebvre, qui a racheté la licence d'exploitation et l'a rebaptisé Pif le Mag. Diffusé le 16 décembre à 100 000 exemplaires, le premier numéro de ce trimestriel serait déjà épuisé dans trois quarts des points de vente, selon l'éditeur qui se félicite de devoir diffuser 60 000 exemplaires supplémentaires pour fournir les fans de Placide et Museau.
Il y a toujours les gadgets ?
Bien sûr, c'est une petite graine de sapin.
Ah, voilà. Vous l'avez ?
Non, je ne l'ai pas acheté.
Rendez-vous dans deux siècles.
Ouais, voilà, c'est ça.
Notre focus programme du jour, c'est Laissez-vous guider ce soir sur France 2.
Oui, alors je l'ai sélectionné déjà parce que c'est un programme inédit et en période de fête où à la télé c'est surtout la fête à la rediff, eh ben, ça mérite d'être salué. Et puis surtout, vous allez retrouver deux passionnés d'histoire, Laurent Deutsch et Stéphane Bern, qui grâce à la 3D nous plongent 800 ans en arrière dans le Paris du Moyen-Âge. C'est assez impressionnant à voir. Alors j'ai demandé à Laurent Deutsch si lui, qui connaît la capitale mieux que personne, avait appris quelque chose en travaillant sur cette émission. Eh bien, il va nous parler d'un cimetière, le cimetière des innocents. Rien à voir avec celui des éléphants, Dédie Mitchell, Pascal. C'est dans l'actuel quartier des Halles, au centre de Paris. Écoutez.
C'est pas du tout un cimetière comme on peut se l'imaginer aujourd'hui, avec des croix, avec des pierres tombales, avec des monuments. Non, au Moyen-Âge, il y a très peu de pierres, il y a très peu de croix. Pourquoi ? Parce que la pierre, ça coûte cher. En plus, il n'y a pas de croix avec des noms, parce qu'on écrit très peu, on lit pas beaucoup au Moyen-Âge, donc on ne sait pas lire. Et du coup, c'est un espace nu, les corps sont enterrés sous terre, et il y a peu de monuments commémoratifs. C'est réservé aux gens riches et puissants. Donc c'est ce genre de surprises qui nous sont données à voir quand on se retrouve au milieu du vestige qui rejaillit grâce à la magie de la réalité augmentée.
Voilà, pour découvrir cette balade historique qui a demandé 9 mois de réalisation, c'est ce soir à 21h sur France 2.
Et pour terminer, Thomas, tradition de fin d'année, Le Parisien a dévoilé hier le palmarès de ses étoiles 2020.
Oui, chaque année, la rédaction du Parisien aujourd'hui en France dévoile ses coups de cœur culturels. La série française de l'année, c'est pour eux validé, de Franck Gastambide, qui suit les aventures d'une star montante du rap. À l'international, c'est l'excellente série Unorthodox qui emporte les suffrages. Le documentaire émouvant d'Arte, Petite fille, qui suit Sacha, 8 ans, né dans un corps de garçon, est aussi récompensé d'une étoile. Il est d'ailleurs toujours disponible en replay, ce doc, si vous souhaitez le voir.
Allez-y.
L'émission télé de l'année est pour eux l'indéboulonnable Koh-Lanta sur TF1. Et plus original, la personnalité télé de l'année est pour eux Mercotte, qu'on retrouve dans Le Meilleur Pâtissier sur M6. Enfin, pour la musique, ils ont choisi le 4e album de Yael, L'Ère du Verseau, avec lequel je vous quitte aujourd'hui. Ce titre, Je t'aime encore, est une déclaration à la France qui a mis plus de temps que beaucoup d'autres. Pays à reconnaître leur talent, mais là je crois que c'est pas Yael qu'on entend, mais c'est Camille Lelouch qui va...
voilà. Qui sera là tout à l'heure, mais bon, est-ce qu'on peut écouter Je t'aime encore de Yael? Sinon, bah, vous irez chercher vous-même, c'est pas grave. Comment ça, vous nous quittez, Thomas Yael?
Non, jusqu'à demain, bien sûr, à
9h. Bah dites donc, ça va être long, une année 2020 sous surveillance, on en parle dans deux minutes avec le spécialiste des grandes oreilles numériques, Olivier Tesquet, c'est à suivre.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Pascal Clark.
Vidéosurveillance, drones, reconnaissance faciale, trafic de données, incursions dans les téléphones portables. Plus que jamais en 2020, bientôt 21, Big Brother is watching you. Mais il y a moyen de surveiller la surveillance numérique. Je vois l'œil de qui voit mon œil. Bonjour Olivier Tesquet.
Bonjour.
Merci d'être en direct dans le studio de Culture Média. Vous êtes journaliste à Télérama. Vous êtes vous-même un enfant du numérique. Quand et pourquoi avez-vous décidé de suivre à la trace, selon le titre d'un de vos livres, les errements technologiques?
Alors, ça fait une dizaine d'années moi, que je m'intéresse à ces questions-là. C'est vrai que je fais partie de cette génération qui a d'abord pensé que la technologie allait avoir cette espèce de pouvoir libérateur. On voyait les réseaux sociaux arriver, on a vu les printemps arabes, ce genre de choses. On va dire au tournant un peu des années 2010. Et puis assez rapidement, on s'est rendu compte que toutes ces nouvelles technologies pouvaient être aussi utilisées à des fins beaucoup plus policières, sécuritaires, surveillantes, on va dire. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai opéré un peu une espèce de mutation pour suivre effectivement cette vaste industrie, ce vaste écosystème de la surveillance.
Oui, c'est ça, les nouveaux outils numériques apparaissent à première vue comme des progrès, sauf qu'il ne faut pas qu'ils tombent entre toutes les mains, c'est ça, il y a danger. Quel est le danger exactement?
Le danger, c'est qu'aujourd'hui, et particulièrement dans la période qu'on est en train de traverser, dans ce moment pandémique, c'est un grand moment de normalisation, c'est-à-dire que c'est le moment où le secret médical ou la vie privée, pour ne prendre que ces deux normes-là, sont le plus menacés. Or, on voit, et c'est observable là depuis quelques mois, que c'est aussi une période dans laquelle les technologies de surveillance, qui étaient déjà expérimentées, déployées de manière un peu plus marginale ou sporadique, se généralisent, se banalisent, et donc on est dans un moment d'accélération, qui est aussi un grand moment de visibilité. C'est-à-dire que on peut aussi profiter, entre guillemets, de cette crise sanitaire pour cartographier un peu ces territoires de la surveillance qui n'ont jamais été aussi visibles qu'aujourd'hui. En fait.
Alors, on parlera de la crise sanitaire dans un deuxième temps, mais je voulais décliner quelques affaires, quelques exemples survenus cette année. Par exemple, quand on apprend, il y a à peu près deux semaines, que le footballeur champion du monde, Antoine Griezmann, annonce rompre son contrat d'image avec le chinois Huawei, c'est le géant chinois des télécoms. Il y a soupçon d'alerte ouïghour par la reconnaissance faciale. Expliquez-nous ça. Comment ça fonctionne?
Alors, il faut déjà rappeler que donc, les Ouïghours, c'est cette minorité musulmane qui vit au Xinjiang, donc dans le nord-est de la Chine.
Persécutée.
Persécutée, hein, qui vit un génocide culturel depuis de nombreuses années déjà à cause de Pékin, et qui est le territoire le plus surveillé de la planète, y compris sur le plan technologique. Et donc, depuis quelques années, on avait déjà un certain nombre d'entreprises qui aidaient le pouvoir chinois à surveiller numériquement, on va dire, les Ouïghours. Et là, depuis quelques semaines, on a de nouveaux noms qui arrivent un peu sur la place publique. Et donc, on a eu Huawei, par exemple, qui, alors, c'est notable parce que c'est une très grande entreprise. Donc, effectivement, Huawei... Alors, ils ont dit qu'ils l'avaient fait de manière expérimentale.
Mais comment ça fonctionne?
C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises chinoises, les entreprises technologiques chinoises, travaillent toutes, ont toutes des liens avec la reconnaissance faciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'espèce de course à l'intelligence artificielle que se mènent la Chine et les États-Unis, la reconnaissance faciale est un enjeu majeur. Et les Ouïghours, là-dedans, sont une espèce de territoire d'expérimentation. Ce qui est assez dramatique, hein, de le dire comme ça, mais c'est la réalité. Et donc, Huawei, comme d'autres...
Grandeur nature, malheureusement.
Voilà,
ouais,
c'est
ouais.
ça. C'est vraiment un laboratoire sous cloche. Et donc Huawei, comme d'autres entreprises, a développé un outil. Alors à titre expérimental, hein, disent-ils, ça n'avait pas vocation à être commercialisé, mais bon, toujours est-il que ça existe, qui permet, en analysant les traits du visage, de déterminer si vous faites partie de l'ethnie ouïghour. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous avez les yeux moins bridés que l'ethnie Han, parce qu'on sait que les Ouïghours, qui sont des turcophones, ont un morphotype qui est moins chinois au sens où on l'entend traditionnellement.
C'est fait pour les dénoncer, on est d'accord.
Donc c'est fait pour les identifier dans l'espace public, ouais. Et donc pouvoir les contrôler le cas échéant. Et c'est pas du tout la seule entreprise à le faire, parce que Alibaba, par exemple, le fait aussi. Alors Alibaba, on voit le géant du e-commerce, un peu l'Amazon chinois, on va dire. Mais eux aussi participent de ce profilage ethnique des Ouïghours.
Alors, autre chose, Olivier Tesquet, NSO, une société israélienne spécialisée dans les logiciels espions, qui travaille pour les gouvernements, que lui reproche-t-on en ce moment ?
Alors NSO, c'est vrai que c'est un cas très intéressant parce que ça fait 2-3 ans qu'on parle de plus en plus d'eux. C'est une officine israélienne comme il en existe beaucoup, c'est-à-dire que c'est un pays dans lequel toutes les entreprises de surveillance numérique, et c'est vraiment une zone un peu clé pour ça, ont des liens avec les services de renseignement israéliens. C'est-à-dire que du coup, il y a une sorte de Silicon Valley de la surveillance qui s'est créée en Israël et où on a des entreprises qui sont spécialisées, pour le coup, dans des choses extrêmement intrusives. Et donc NSO, sa spécialité, c'est de vendre des logiciels espions. Alors le plus connu s'appelle Pegasus.
Et Pegasus, le fameux Pegasus.
Voilà, le fameux Pegasus. Alors c'est plus Cheval de Troie, c'est Pégase. mais en gros, vous recevez un texto ou un message WhatsApp vérolé sur votre téléphone. Vous cliquez dessus et votre téléphone est infecté. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ils peuvent accéder à peu près tout ce qu'ils veulent. Alors évidemment, ça coûte très cher. C'est-à-dire que ça n'a pas vocation à infecter n'importe qui. C'est pas du tout conçu pour de la surveillance massive de milliers ou de centaines de milliers de personnes.
Alors, qui infiltre-t-il ?
Alors, on s'est rendu compte justement au fil des investigations qui ont été menées par des collectifs, des journalistes, des informaticiens aussi ou des ingénieurs depuis quelques mois, que les cibles de prédilection de NSO, c'est souvent les militants, les journalistes, les défenseurs des droits humains, parce que notamment ils vendent à un certain nombre de pays qui peuvent être intéressés à l'idée de regarder les télécommunications de ces personnes-là. Ils vendent au Mexique, qui du coup par exemple s'en sert pour surveiller les familles des journalistes assassinés après avoir enquêté sur le narcotrafic. Ils s'en servent, ils le vendent en Arabie Saoudite, qui s'en sert pour surveiller les journalistes d'Al Jazeera. Ils le vendent au Rwanda, qui s'en sert pour surveiller ses opposants politiques.
Des démocraties en gros.
Voilà,
hein,
de grandes démocraties, mais ils essaient aussi de démarcher des pays un peu plus présentables. Mais ils restent aujourd'hui l'une des entreprises les plus inquiétantes, on va dire, dans cet écosystème de surveillance.
Olivier Tesquet dans Culture Média ce matin. Faites gaffe, si ça se trouve, on est écouté en ce moment. Oh ben j'espère bien.
À tout de suite. Média. Pascal Clark.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Tesquet, journaliste à Télérama, spécialisé dans la surveillance numérique. Il y a quelques jours, Olivier Tesquet, le Conseil d'État a interdit l'usage de drones pour surveiller les manifestations. Drones utilisés par le préfet de police de Paris, le fameux Lallemand. Et là, il y a peut-être des gens qui se disent, en nous écoutant, quel est le problème de la surveillance par les drones ? Pourquoi pas ?
Alors, le problème de la surveillance par drone, c'est qu'il n'y a pas de cadre légal aujourd'hui. En tout cas, il y a un cadre légal qui, pour reprendre l'expression de Gérald Darmanin, n'est pas stabilisé. Faut d'ailleurs dire que la décision du Conseil d'État, c'était la deuxième fois en quelques mois qu'il venait rappeler à la préfecture de police qu'elle ne pouvait pas utiliser les drones. Parce qu'au mois de mai, déjà, le même Conseil d'État avait dit à Didier Lallemand, les drones pour surveiller pour faire respecter le confinement, c'est pas possible. Donc on voit que...
Donc c'est l'absence de cadre juridique qui pose problème.
Donc c'est l'absence de cadre juridique qui pose problème, avec quand même une nuance importante, c'est qu'il va y avoir une rustine juridique incessamment sous peu, puisque la fameuse loi sécurité globale dont on a beaucoup parlé, alors on a beaucoup parlé de l'article 24 sur la possibilité de filmer les forces de l'ordre, mais
aussi
l'article 22,
aussi,
voilà,
oui.
Et le 22 va permettre de généraliser, on va dire, l'utilisation de drones policiers dans tout un tas de cas de figure, et notamment, évidemment, le contrôle des manifestations et de la contestation sociale.
Donc vous dites c'est contraire à la liberté de manifester.
Écoutez, alors pour le coup, c'est même pas moi qui le dis, c'est la défenseure des droits. C'est-à-dire que dans l'avis qu'a rendu la défenseure des droits, elle rappelle que aujourd'hui, en tout cas, quand elle s'exprimait sur la loi sécurité globale, qui est censée justement venir offrir ce cadre légal, elle a rappelé que aujourd'hui, c'était pas respectueux des libertés, ou qu'en tout cas, ça les menaçait. Et je crois même avoir entendu le député Jean-Christophe Lagarde, qui a pourtant voté la loi sécurité globale, qui nous expliquait dans l'hémicycle que c'était un droit de perquisition visuelle permanent sans juge, ce qui était un assez bon résultat. Résumé de ce qu'est effectivement un drone policier dans un contexte comme celui-ci. Il aurait peut-être pu du coup voter le texte un peu différemment.
Vous dites quoi, la surveillance au nom d'une pseudo-sécurité à bon dos, c'est ça ou c'est peut-être le jeu des gouvernements finalement de profiter des situations pour pousser un peu le bouchon.
C'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on voit depuis, en France on le voit très bien depuis 10 ou 15 ans parce qu'il y a eu une très nette accélération, c'est qu'on a un effet fait cliquer, c'est-à-dire que quand vous déployez des technologies à titre expérimental ou des mesures de politique publique, et ces mesures deviennent ensuite permanentes. Moi, je prends toujours l'exemple de Vigipirate déployé en 95 après les attentats, déployé de manière temporaire, exceptionnelle, expérimentale. Aujourd'hui, on vit toujours avec Vigipirate. On l'a vu dans le champ sécuritaire, on est en train de le vivre dans le champ sanitaire, c'est-à-dire que tout un tas de technologies qu'on va déployer ou de dispositifs qu'on va mettre en place de manière temporaire, expérimentale, exceptionnelle, là aussi, au nom de l'état d'urgence sanitaire, par exemple, de la même manière qu'on a eu l'état d'urgence sécuritaire après les attentats de 2015, qui, soit dit en passant, est entré dans le droit commun, donc on voit que ces régimes sont ensuite pérennisés, eh bien ces mesures exceptionnelles deviennent ensuite des mesures routinières auxquelles on finit par s'habituer.
Olivier Tesquet, avez-vous téléchargé l'application Tous Anti-Covid ?
Oui, mais alors je suis pas le bon exemple parce que je suis mon propre cobaye, c'est-à-dire que par conscience professionnelle, j'étais obligé de télécharger.
Oh, c'est pas une question d'exemple, vous l'avez.
J'ai l'application sur mon téléphone parce que je voulais voir effectivement comment ça fonctionnait.
Est-ce que c'était susceptible ? Vu de vous, ça donne quoi cette application ?
Alors vu de moi, la première utilité que je lui trouve, c'est quand même que c'est plus facile de générer des attestations de cette manière-là. Et je pense que beaucoup de gens l'ont téléchargé pour cette raison. Ce qui est d'ailleurs ce qui me pose problème en fait avec cette appli, c'est que depuis le début, l'application Tous Anti-Covid, mais c'est le cas aussi dans d'autres pays hein, où ces applications n'ont pas montré aujourd'hui qu'elles avaient un impact significatif sur le virus et son taux de reproduction. Ce sont bien plus des outils de communication politique que des outils de politique sanitaire. Et d'ailleurs, le meilleur exemple de ça, c'est que la seule chose sur laquelle communique le gouvernement quand il parle de Tous Anti-Covid, c'était la même chose avec Stop Covid. Alors, Stop Covid, il n'y avait vraiment aucun bilan à mettre en avant, donc c'était plus compliqué. Mais c'est le nombre de téléchargements. C'est dire, voilà, vous avez été aujourd'hui plus de 10 millions à télécharger cette application.
Parce que ça ne peut fonctionner qu'en masse.
Ça ne peut fonctionner qu'en masse, hein. C'est ce qu'expliquaient les épidémiologistes qui ont travaillé dessus et qui ont fait les premiers modèles dès le mois de mars, notamment un chercheur d'Oxford, qui nous ont expliqué qu'il fallait effectivement quand même un taux d'adoption et de pénétration assez fort pour que ça puisse avoir un impact. Mais moi, je prends souvent l'exemple de Singapour là-dessus. Singapour qui, a priori, est un territoire qui se prête particulièrement à ça. C'est une cité-État, c'est une espèce de ville du futur, bardée de capteurs, avec un taux d'équipement électronique très très fort. L'application qu'ils avaient déployée, non seulement elle n'a pas suffi à éviter un confinement, mais surtout, elle était d'abord facultative, et aujourd'hui, Singapour, alors qui est parfois un régime à tentation un peu autoritaire, est en train d'imposer des mesures beaucoup plus coercitives, et donc maintenant vous avez une obligation de scanner un QR code avant d'entrer dans un bâtiment. Ouais. Et là, on ne vous demande plus si vous êtes d'accord ou pas, et vous déclinez réellement votre identité. Donc on voit aussi la pente un peu glissante sur laquelle peut nous entraîner une application dont je doute assez peu de la bonne intention, on va dire.
Enfin, bonne intention, s'il y a efficacité ou pas, non.
En période
de crise sanitaire.
C'est un peu le souci, c'est que je pense qu'au début, on s'est assez peu intéressé à l'efficacité de cette application. Quand elle a été défendue, je me souviens, dans l'hémicycle, Cédric Hall, secrétaire d'État au numérique, au moment de défendre Stop Covid, qui faisait déjà largement débat chez les parlementaires, qui avaient réclamé que ce soit mis au vote spécifiquement, à ce moment-là, il avait convoqué Pasteur, le Concorde, le génie français. On voit qu'on était dans le registre affectif, complètement irrationnel, et qu'à ce moment-là, on s'intéressait assez peu, en fait, de savoir si effectivement ça allait ou pas faire reculer le virus.
D'une façon générale, Olivier Tesquet, est-ce que ce sont les données, la matière sensible de l'époque, leur collecte, leur détournement, c'est ça l'histoire, sauf que nous passons volontairement notre temps à laisser des données partout, vous le premier, j'imagine.
Ben oui, c'est aussi un peu pour ça que j'ai appelé mon livre précédent à la trace, c'est-à-dire qu'on participe activement à cette collecte de données. On est des petits poussés comme ça qui se montent des informations sur nous. Alors moi, j'aime pas trop le terme de données personnelles parce que c'est très dépolitisant. Je préfère vraiment parler d'informations intimes parce qu'on laisse vraiment des morceaux de nous.
Personne ne nous y force la plupart du temps.
Personne ne nous y force. Alors on nous y enjoint largement, on nous encourage, on nous dit ben voilà, vous allez avoir tel ou tel service. C'est la promesse des grandes plateformes et des réseaux sociaux notamment. Mais c'est vrai que le fait qu'on soit participant dans ce processus-là fait qu'au moment de se rassembler et de s'agglomérer, on va dire les uns les autres pour pouvoir déployer un discours critique là-dessus, c'est plus compliqué parce qu'on est toujours rongé par une forme de culpabilité qui nous rendrait inapte à émettre le moindre jugement critique dans la mesure où, justement, on fait pleinement partie de ce système-là.
Merci beaucoup Olivier Tesquet, journaliste à Télérama. Je précise que vous sortirez en février un nouveau livre, État d'urgence technologique, comment l'économie de la surveillance tire parti de la pandémie. Bah dites donc.
C'est un programme.
Ça promet. À suivre, Covid. Quand tu nous tiens, nous sommes en ligne avec le journaliste indépendant Vincent Glade à Berlin. Guten Morgen à vous et à tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Pascal Clark.
Obsession Covid. Si vous cherchez un compte Twitter qui documente les informations sur le virus, les graphiques, les cartes, les études, les errements et les erreurs, les fakes aussi, ne cherchez plus très longtemps. Allez suivre le compte de Vincent Glade, journaliste indépendant vivant à Berlin depuis une certaine affaire de la Ligue du LOL. Bonjour Vincent Glade.
Bonjour.
Berlin, vous y êtes en direct ce matin. Ambiance en quelques mots dans la capitale allemande?
Bah là, depuis une semaine, on est repassé en confinement dur. C'est-à-dire que ça correspond à un peu à ce qui était en France en novembre, mais sans les attestations. Donc c'est beaucoup plus tranquille, on peut sortir dans la rue. Mais il y a une forte incitation à ne surtout pas voir des gens, à rester chez soi.
C'est ce que vous faites ?
C'est ce que je fais, voilà, je respecte.
Solitude totale. À quel moment êtes-vous tombé dans le Covid, Vincent Glade ?
Bah, un peu comme tout le monde, hein, quand c'est arrivé en mars, ça nous est tombé un peu sur la figure. Moi, j'ai assez vite senti que pendant un an, dans les médias, on n'avait parlé que de ça. De ce point de vue-là, je ne me suis pas trop trompé, je pense. Et je me suis dit, bon, bah, il faut que tu te mettes sur ce sujet, puisque ça risque de monopoliser l'attention, quoi. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser. Et en fait, ça m'a intéressé un peu plus que j'imaginais, notamment sur l'aspect épidémiologique, sur le fait d'étudier les datas. Voilà, donc j'ai commencé à publier beaucoup sur Twitter. J'ai été de plus en plus suivi sur ce sujet. Et voilà, donc ça fait presque un an maintenant.
Vous êtes du genre obsessionnel dans la vie ? Vous avez plongé à corps perdu dans ce sujet voilà. Unique, qui certes est vaste. Quand vous avez commencé, Vincent Glade, vous ne saviez pas où vous alliez, personne ne savait. Qu'est-ce qui vous a motivé au début ?
Comme je dis, c'est qu'en fait, je me suis dit qu'on ne pouvait pas être journaliste en 2020 si on ne parlait pas du Covid. J'ai eu cette impression-là assez rapidement. Et de fait, c'est un sujet qui touche à tous les aspects de la société. Et c'est bien la politique, l'international. Moi, je suis en Allemagne, donc ça m'intéresse de suivre ce qui se passe en Allemagne. La science, évidemment, mais pas que la science. Donc, c'est une sorte de journalisme global. On est obligé d'être deux spécialistes sur plein de sujets. C'est très complexe. Et ça m'a beaucoup intéressé de m'y plonger dedans et de mettre à lire des études scientifiques, ce que je ne faisais pas du tout avant, et d'essayer de les comprendre, ce qui est plutôt passionnant.
Comment travaillez-vous ? J'imagine que la somme d'infos mondiales est astronomique et évidemment, un journaliste doit choisir. C'est la base de son travail. Comment faites-vous ?
J'essaie de faire une veille un peu internationale, donc de suivre ce qui se passe dans les différents pays du monde, en suivant à la fois des épidémiologistes, hein, qui publient beaucoup sur Twitter dans le monde entier, mais aussi des médias locaux. Puisque sur le Covid, il n'y a pas que l'aspect scientifique. Il y a l'aspect médiatique, c'est souvent des médias qui vont sortir des informations de type épidémiologique. C'est eux qui vont parler d'un cluster dans une maison de retraite au Canada, dans une crèche en Australie. Donc il faut à la fois suivre des scientifiques et des médias. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est là où, notamment, je pense que je suis intéressant pour des scientifiques à suivre, parce que je suis plus les médias qu'eux. Eux, ils suivent forcément que les publications scientifiques. Moi, j'essaie de m'intéresser aussi aux médias, qui écrivent pas que des conneries, il y a aussi des choses vraiment intéressantes de publier un peu dans le monde entier. Et donc voilà, et j'essaie de sectionner ce qui me paraît, disons, dans l'actualité internationale, ce qui me paraît intéressant pour la France. Alors, Par exemple, cet été, il y a eu une vague en plein été en Floride, aux États-Unis. Ça n'a pas beaucoup intéressé en France, mais je me suis beaucoup intéressé à ça parce que je me suis dit que ça pouvait annoncer une vague estivale en France. Et c'est globalement ce qui s'est passé en août-septembre. Donc en suivant l'actualité internationale du Covid, on arrive souvent un tout petit peu à anticiper ce qui pourrait se passer en France.
Vous l'avez dit, ce sont essentiellement des infos scientifiques, enfin souvent. Il s'agit de vulgariser et ça n'est pas votre parti. Comment faites-vous ?
C'est pas mon parti, c'est-à-dire ?
Vous n'êtes pas un journaliste scientifique que je sache.
Ah oui, je ne suis effectivement pas. Non, mais j'essaie comme tout le monde de comprendre. Si vous voulez, il y a une sorte de démocratisation de la data sur le Covid, de la data épidémiologiste. Tout le monde aujourd'hui regarde des courbes sur le Covid, on en voit à la télé tous les jours, on en voit quand on tape quelque chose sur Google, il y a une courbe qui apparaît. Donc comme beaucoup de gens, d'amateurs, j'essaie de m'intéresser, de comprendre ces courbes, de comprendre ces études. Et au fur et à mesure, on arrive à comprendre. Et le travail d'un journaliste, c'est de prendre un sujet très complexe qu'au départ, il ne comprend pas et d'essayer d'expliquer au grand public.
Qu'est-ce qui vous frappe surtout, Vincent Glade, depuis que vous observez les tribulations mondiales de ce Covid-19 ? C'est compliqué d'avoir du recul, on est encore en plein dedans, mais quand même, le peu de certitude qu'on a encore sur ce virus qui a mis le monde à genoux vous frappe quand même ?
Ah ouais, c'est assez évident. C'est qu'il y a un truc que j'ai appris avec cette pandémie, c'est qu'on ne peut pas prévoir. Le virus finit toujours par nous surprendre. La vague, par exemple, qu'il y a eu en septembre-octobre, elle était assez prévisible. En même temps, la force de cette vague ne l'était pas. Elle est arrivée soudainement dans toute l'Europe en même temps, à la fin septembre. Et j'avais vu aucun scientifique le prévoir 2 semaines avant. Donc on est à la fois sur une épidémie où on progresse scientifiquement à une vitesse exceptionnelle, avec le vaccin par exemple, et en même temps on est toujours dans l'incertitude, systématiquement.
Vous qui êtes un spécialiste du web, vous constatez également l'ampleur qu'a pris le complotisme.
Ah oui, ça c'est effectivement très très fort. Ça avait commencé notamment autour du professeur Raoult, la chloroquine. Ensuite, c'est parti beaucoup sur ce qu'on appelait le Covid-scepticisme, c'est-à-dire de dire qu'il n'y aura pas de deuxième vague, ça n'existe pas, c'est terminé, on plie les Gaules. Et aujourd'hui, c'est sur le vaccin. Et notamment autour d'un site comme François, qui fut un très grand média il y a quelques années, quelques dizaines d'années, disons, et qui aujourd'hui est devenu vraiment un site complotiste. Il y a une scène très très forte sur Internet autour de ça, qui conteste toutes les informations scientifiques sur le Covid, et qui risque d'avoir un impact assez fort, notamment sur la campagne de vaccination.
Que faites-vous de ça ? Vous publiez, vous ne publiez pas ?
C'est-à-dire ? Sur quel type d'informations ?
Les informations complotistes, précisément, quelle est votre politique ? Vous les publiez pour les dénoncer ou vous faites abstraction ?
Non, souvent je vais en parler parce que je pense que, par exemple, pendant cet été, il y a eu beaucoup de médecins qu'on a dit rassuristes, qui étaient invités sur les plateaux télé, comme le professeur Toussaint, professeur Toubiana, et moi j'avais dénoncé sur mon Twitter en disant attention, ces gens-là ne sont pas respectés par la profession, ils ne représentent pas le consensus scientifique. Et donc j'avais un peu alerté là-dessus en disant attention, les chaînes d'information, ce que vous faites là c'est un peu dangereux parce que ça fait vraiment le jeu du complotisme. Donc le complotisme, il faut en parler, enfin il faut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc en tant que journaliste, c'est assez normal de, quand je vois qu'il y a un vrai problème sur une information, de simplement le publier.
Vous avez près de 144 000 abonnés sur votre compte Twitter, Vincent Glade. Vous en avez gagné beaucoup à cette occasion ?
J'ai pas fait le décompte exact, non, très sincèrement, je sais pas. J'ai peut-être gagné 10 000 ou quelque chose comme ça. Mais je suis beaucoup plus suivi depuis le Covid, c'est clair, parce que c'est un sujet d'intérêt. Et la plupart des comptes Twitter qui, comme moi, publient quasiment que sur Twitter, sont très suivis actuellement. Et vous savez que dès que vous parlez à l'antenne du Covid, ça va intéresser les gens, c'est pareil sur Twitter.
Emmanuel Macron vous suit, ça fait longtemps ?
Je ne sais pas s'il me suit vraiment, mais j'ai envoyé des DM, en tout cas, des messages privés.
C'est pas semblant, là, pas de pudeur à Berlin.
Non, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il me suit vraiment. En tout cas, c'est vrai que son compte me suit, mais...
Ah oui, c'est peut-être juste pas lui personnellement.
Community manager. Mm-hmm. Voilà, je ne sais pas.
Jusqu'où irez-vous ? Parce que, hélas, cette pandémie semble devoir durer. D'abord, est-ce que vous ne saturez pas, d'une part ? Et d'autre part, jusqu'où irez-vous ? Ce sera quoi le point final de cette obsession Covid ?
J'aimerais bien un jour pouvoir faire un tweet « Zéro Covid en France » depuis 2 mois. Voilà, ça serait parfait, ça serait le signe de la fin de la pandémie. Malheureusement, à mon avis, on ne l'aura pas avant sans doute la fin 2021, voire plus. Donc ça risque d'être encore un petit peu long.
Dans la vie, il y a des comptes bio, il y a aussi des comptes Covid. On revient avec vous, Vincent Glade, dans 2 minutes. Ne quittez pas, on va parler de vous plus précisément. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Pascal Clark.
Vincent Glade, toujours en direct de Berlin pour son compte Twitter consacré quasi exclusivement au Covid. Vous dites le Covid ou la Covid, vous ?
Moi, je dis le Covid, mais je pense qu'il faut dire la Covid, effectivement.
Moi, je fais comme vous.
Ouais, je suis en partie l'école, je dis le Covid.
Sinon, on dirait une faute de français de Jane Birkin. vous définissez comme journaliste indépendant. Alors, qui vous rémunère pour ce travail que vous effectuez sur Twitter ? Personne ?
Sur Twitter, personne, mais ça donne beaucoup de visibilité. Donc, ça fait que des gens me contactent. Donc là, actuellement, je travaille sur différents projets, notamment long cours.
Comme quoi ?
Probablement sur un documentaire, peut-être sur le Covid.
Quel angle ?
Bah, je ne peux pas trop encore en parler parce que c'est
secret.
C'est secret, voilà. Non, ce n'est pas secret, mais bon. On est encore en train de travailler dessus.
Vincent Glade, est-ce que dans votre démarche, il y a aussi une volonté de réhabilitation ?
Non, mais je ne cherche pas du tout à me réhabiliter. J'ai toujours fait ce travail de publier énormément d'informations sur Twitter. Je l'avais fait pendant les Gilets jaunes. C'est exactement pareil.
Je l'ai semblant parce qu'il faut que je rappelle l'affaire en quelques mots. On y va. Hein, en 2019, vous êtes retrouvé au cœur de l'affaire dite de la Ligue du LOL, un groupe privé que vous aviez créé sur Facebook en 2010. Certaines personnes ont été harcelées en ligne. On a entendu des témoignages assez poignants. Et vous, comme d'autres, avez été licencié, en l'occurrence du journal Libération où vous travaillez. Je précise que vous contestez ce licenciement et que les prud'hommes viennent de se tourner vers un juge professionnel. Est-ce que c'est votre peine que vous êtes en train d'effectuer symboliquement, diriez-vous, parce que vous avez fait du mal à des gens et que vous êtes devenu une sorte de paria d'une profession ?
Non, bah, moi, j'étais victime d'un emballement médiatique assez délirant sur cette affaire, hein, qui a fait totalement pchit.
On a encore du mal à vous considérer comme une victime, mais bon, vous serez toujours plutôt coupable que victime dans l'acceptation.
Je n'ai harcelé personne dans cette histoire. On m'a reproché d'avoir créé un groupe Facebook dans lequel des gens auraient pu avoir harcelé des autres gens il y a 10 ans sur un autre réseau social. Donc là, si vous voulez, actuellement, je suis en procédure, moi qui ai attaqué au prud'homme mon ancien journal Libération. Et voilà, moi j'ai absolument aucune plainte contre moi, rien du tout. Alors, sinon que j'attaque un journal qui m'a licencié, non pas pour une faute que j'aurais commise, mais pour le fait que des gens avaient demandé sur Internet de me licencier. Mmh.
J'ai pas spécialement envie de me replonger dans cette affaire, d'abord parce qu'elle est très complexe et que ça va prendre du temps qu'on n'a pas. Je cherche juste à savoir comment vous allez vous sortir de ça, Vincent Glade.
Et je retravaille, donc je vois pas en quoi j'aurais besoin de me ressortir de ça. J'ai aucune plainte contre moi. Le seul truc que j'ai actuellement, c'est une procédure au prud'homme contre Libération que j'espère bien gagner pour démontrer que cette histoire avait été un immense emballement médiatique. D'ailleurs, vous remarquerez que depuis 2 ans, plus personne ne parle de cette affaire dans les médias parce que c'est très gênant. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles pour une affaire qui, au final, a fait pchit.
De quoi vivez-vous ?
Eh bien, je vis de journalisme actuellement. Comme je vous dis, je travaille sur différents projets. Je travaille aussi avec une équipe d'épidémiologistes sur le Covid. Je fais de la veille d'information.
Est-ce que vous avez recherché du boulot depuis cette affaire dans une rédaction, précisément ?
Oui, justement au départ, j'avais recherché un peu de travail, j'ai envoyé quelques CV, j'avais été assez avancé pour être embauché, et puis on m'avait ressorti l'affaire Ligue du LOL en disant que non, finalement, c'était trop compliqué, les gens avaient peur des réactions sur Internet, tout ça. Et ça, c'était il y a peut-être un an. Et depuis, les choses sont revenues à la normale.
Vous trouvez que les choses sont revenues à la normale pour vous, oui ?
Je trouve, oui. Mm-hmm.
Je reviens à cette façon que vous aviez de vous présenter il y a quelques minutes en disant « je suis une victime de l'affaire ». Vous ressentez vraiment ça ?
Si vous voulez, quand vous avez reçu un nombre délirant de menaces de mort, vous avez été accusé de harcèlement dans la presse du monde entier, que je n'ai harcelé personne, on peut se considérer un petit peu comme une victime d'un envolement médiatique. Voilà.
Et vous n'avez pas de regrets du tout ?
Non, mais j'ai regret que les médias soient pas revenus sur cette affaire et les laisser où elle en est il y a un an et demi, avec énormément de contre-vérités qui ont été faites. Et beaucoup de gens qui aujourd'hui souffrent encore de la trace qu'il y a sur Google de cette affaire.
Vous attendez quoi ? Une sorte de réhabilitation à vous entendre ?
Mais non, mais quand je vous dis, je cherche pas à être réhabilité quoi que ce soit. Je fais simplement mon travail comme avant. C'est vous là qui êtes un peu obsédé. Vous parlez d'obsession, c'est vous qui êtes obsédé avec cette histoire.
Je suis obligé de revenir là-dessus. Vous voyez, on va pas faire comme si ça n'avait.
Je comprends tout à fait.
Comme si ça s'était pas produit. Donc c'est pas mon obsession. Je vous ai en ligne. J'essaye de faire le point. En tout cas, il faut croire que vous n'êtes pas dégoûté d'Internet ni de Twitter. Est-ce que vous avez tiré quand même des leçons ? Est-ce que on n'est pas dans un monde où les traces sont indélébiles ?
Mais d'ailleurs, dans cette affaire, il y avait peu de traces, en fait. Il n'y a pas eu de preuve de rien de ce fameux harcèlement. Donc et effectivement, sur Internet, il y a énormément d'histoires qui se passent, de clash, de machin, et on s'en rend compte avec cette affaire que 10 ans après, on peut venir vous reparler de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Voilà. Mais en l'occurrence, dans cette affaire, il y a très peu de traces, finalement.
Il y en a quand même, en tout cas, il y a des traces collectives qui auront du mal à s'effacer, peut-être.
C'est plus des traces médiatiques, en fait. C'est tous les articles qui ont été publiés sur cette affaire, effectivement. C'est pas de mon fait.
Alors, on revient à votre obsession Covid, parce que l'autre semble vous déranger quelque peu. Quelles sont ces dernières 24 heures, quelles sont les infos primordiales concernant le Covid, selon vous ?
Ah bah, je pense qu'il faut suivre vraiment de près ce qui se passe en Angleterre, hein, le fameux variant anglais, dont les Anglais disent qu'il aurait 70% de transmissibilité en plus, et qui pourrait augmenter le R, c'est-à-dire le taux de reproduction, de 0,4 points. Donc là, actuellement, en France, on est sur un taux de reproduction de 1. Imaginons que les Anglais aient raison et que ça augmente de 0,4 points, on serait sur 1,4. C'est-à-dire, c'est le taux de reproduction qu'il y avait lors de la deuxième vague en septembre-octobre. Donc, si jamais les Anglais ont raison et qu'on n'arrive pas à maîtriser ce variant, on pourrait avoir une rentrée en janvier très, très, très compliquée.
Notamment
dans les écoles.
Ouais, notamment en France, puisque voilà, on sent déjà peut-être hein, se profiler un troisième confinement. Vous le sentez venir aussi ?
Je le sens venir, mais comme je vous disais, il ne faut pas faire de prévision sur ce virus, parce que on se trompera toujours. Il faut quand même noter que le 24 décembre, les derniers chiffres qu'on a, il y a eu 20% de cas positifs en moins par rapport à la semaine précédente. Donc il est possible que juste avant Noël, il y ait une petite baisse. Ça peut remonter du coup à cause de Noël, à cause des fêtes de Noël. Mais il n'est pas tout à fait impossible que ça soit. Enfin, c'est pas sûr que ça soit la catastrophe dans une semaine ou deux. Il faut rester très prudent.
Le pire n'est pas sûr.
Voilà, mais, le pire n'est jamais sûr.
Mais le meilleur non plus. Merci beaucoup, Vincent Glade, d'avoir été en ligne depuis Berlin. Si vous voulez voilà, avoir pas mal de données sur le Covid, allez donc chercher le compte de Vincent Glade sur Twitter. Merci beaucoup et bonne journée à vous.
Bonne journée.
À suivre dans la deuxième heure de Culture Média. Petit tapis, ce serait bien. Oh, j'aimerais bien. Voilà, merci Valentine. À suivre donc après 10h, enfin chanteuse. Certes, Camille Lelouch sait faire rire. One Woman et post Instagram. Certes, Camille Lelouch joue dans des films, mais sa passion première, c'est chanter. Après le tube de l'été avec Grand Corps Malade, un premier album arrive en mars avec ce premier titre où elle remercie son ex. Camille Lelouch est notre invitée dans une dizaine de minutes. Damien Caprespine lui tira le portrait. Les indispensables du jour, Nicolas Caro avec nous toute la semaine. Ce matin, un roman culte, roman américain, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Indispensable 2, Joy Raffin vous recommande 3 biopics de champions sportifs. Il y a forcément du Maradona dedans. D'autres légendes, tout de suite, dans un instant, avec Eva Rock. Culture Média, 2h, ça va arriver, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs ? Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.